Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Canu au 102.2. Et maintenant, c'est Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours Radio Canu le 102.2 avec le début d'Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Bonsoir.
Bonsoir.
Arrête de rigoler derrière ton micro, toi là-bas.
Et on va du coup démarrer par les annonces, comme on fait d'habitude en début d'émission. Donc il y a quelques rendez-vous à vous donner pour cette fin de semaine. Ça démarre dès demain à midi, ça se passera devant la métropole, je crois que c'est rue du Lac, l'adresse exacte. C'est un rassemblement en soutien aux mineurs isolés et contre la loi Collomb-Macron, asile-immigration. Voilà, c'est par rapport à la prise en charge des mineurs étrangers isolés qui sont complètement laissés pour compte depuis plusieurs mois maintenant, et avec ce projet de loi qui voudrait externaliser aussi cette prise en charge des mineurs étrangers isolés, en fait, de faire deux clans, d'un côté les mineurs isolés français et de l'autre les mineurs étrangers isolés qui seraient du coup un peu balargués à droite à gauche, qui seraient sous-traités par des associations, voilà, qui seraient mandatées par l'État. Donc voilà, donc il y a un rendez-vous demain à midi. C'est pas le premier pour ce sujet-là, mais c'est important à chaque fois de s'y rendre. Donc c'est rue du Lac, hein, c'est vers la Part-Dieu, la métropole de Lyon. Ensuite, le deuxième rendez-vous, ce sera le lendemain, le vendredi 13 avril à 11h, avec une manif des cheminots et des cheminotes au départ de la gare de la Part-Dieu. Voilà, une manif, je crois, qui ira vers la Tour InDesign, un truc comme ça, il me semble. Donc toujours à soutenir, forcément. Des grèves, il y en aura un paquet. Il y en aura notamment une, mais on en parlera la semaine prochaine, le 19. Cette fois-ci, une grève interprofessionnelle, voilà, pour essayer de faire bouger les lignes un petit peu. Mais c'est toujours important d'aller soutenir les cheminots et les cheminotes qui continuent leur grève de 2 jours tous les 5 jours. Voilà, on espère que ça va tenir encore longtemps. On fera un gros point tout à l'heure là, sur la SNCF, justement. Une autre annonce, le même soir, le 13 avril, donc vendredi soir, à 19h, ça se passera au local de la CNT, au 44 rue Burdeau. Voilà, c'est un cafeton un peu spécial. Alors le cafeton, vous savez, ça fait plusieurs années que la CNT ouvre le jeudi soir, voilà, pour les cafetons. Là, ça se passera un vendredi parce que c'est un peu particulier pour deux raisons. La première, c'est que vendredi, c'est l'anniversaire de Bibi, un camarade de la CNT, Tiens bon la pente, qui est décédé assez récemment, et donc du coup il y a un cafeton un peu spécial donc ce vendredi 13 avril, voilà, pour lui rendre hommage un petit peu, pour se retrouver, pour discuter, et l'argent, une partie de l'argent qui sera récolté, voilà, servira aussi suite à l'attaque de la CNT, voilà, et à la remboursement notamment de la franchise, qui va être bien chère parce que la vitre était assez grande, mine de rien. Donc voilà, donc ça c'est vendredi soir à partir de 19h à la CNT. Et enfin, la dernière annonce, ce sera pour samedi après-midi. Alors je crois que c'est un truc qui dure sur 2 semaines, mais c'est une expo 30 ans de lutte pour les transports gratuits. Ça vous rappellera des souvenirs voilà, et du coup apparemment il y a pas mal d'affiches, je trate, etc. Donc ouais, c'est Papy Art qui gère ça, il me semble. Ça se passe au 37 rue Burdeau, donc c'est juste au-dessus de la CNT, voilà, donc allez-y jeter un coup d'œil. Je crois que c'est pareil samedi prochain. Et ensuite, dernière petite annonce, c'est par rapport à l'occupation qui est en ce moment du coup à Lyon 2 sur les quais. Voilà, il y a tout un programme qui a été fait, notamment voilà pour demain, notamment avec 17h une intervention sur les cahiers de Gramsci, à 18h une discussion échange queer révolutionnaire, à 19h une discussion sur l'antifascisme, le samedi une intervention de Bernard Friot, voilà, sur la mobilisation nationale contre Macron et son monde, peut-être une intervention du collectif des Déracinés, et le vendredi 13 une intervention peut-être de collectif L'Amphizède, une projection le soir de Navigator de Ken Loach, pour faire lien avec la bataille du rail qui fait rage dans notre pays. Donc voilà pour les annonces, voilà, vous pouvez retrouver ça, on les rappellera vite fait à la fin de l'émission. Et je voulais juste vous dire aussi, par rapport à comment on parle au de fac, assez rapidement, il y a Solidaires étudiants et étudiantes qui a sorti un petit fanzine, c'est pas un fanzine, mais du coup c'est une revue de lutte un petit peu qui s'appelle Fac en lutte. Voilà, donc a été édité hier, le dernier numéro. Voilà, pour dire un peu que la carte des occupations et des mobilisations a été bien remplie au niveau des facs. Donc vous pouvez aller voir, vous trouvez ça sur le net, hein, parce que du coup, il y a différentes couleurs du coup sur la cartographie, de savoir si le campus est bloqué et occupé de façon reconductible et limitée, comme ça se fait par exemple à Rennes, à Nantes, à Grenoble et dans plein d'autres villes encore. Une autre couleur pour si le campus est bloqué ponctuellement les jours de mobilisation. Une autre couleur pour savoir si le lieu est occupé par les étudiantes et étudiants mobilisés. Et enfin, une dernière couleur pour savoir si les étudiants s'organisent en assemblée générale. Donc voilà, il y a un peu la carte de tout ce qui se passe en France, avec un petit focus sur ce qui se passe en Île-de-France, que il y a un peu plus de facs qu'ailleurs. Et donc voilà, et à la fin du dossier, il y a aussi toutes les fiches qui ont été sorties par Solidaires étudiants sur la loi Vidal, sur les stages, sur les bourses, sur toute cette réforme de merde du gouvernement, voilà, pour trouver aussi des arguments, hein, voilà, si vous en cherchez. Il y a pas mal de choses intéressantes qui ont été éditées par Solidaires étudiants et étudiantes. Donc voilà, pour les annonces.
Merci.
Et on enchaîne. Je vous regarde parce que je crois que c'est à vous.
Je ne veux pas que vous parlez.
Eh ben, moi, il me semble que c'est le point SNCF maintenant.
Non, je crois qu'on a fait.
On avait dit qu'on faisait un petit point sur la situation à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avant. On ne va pas non plus s'éterniser parce qu'a priori, il y a eu un gros dossier de fait dans l'émission d'avant que vous pourrez retrouver aussi sur le site de Radio Canu.
Oui, voilà, ouais, parce que du coup, il y a eu un direct en fait, avec un camarade là-bas, voilà, qui est en direct du coup sur la ZAD, donc voilà, qui a pas mal de détaillé ce qui se passait. Mais voilà, on voulait quand même faire un petit point. Puis vous, si vous voulez réécouter le Canu Info, ça se passe sur, je crois qu'il est en ligne sur Rebellion tous les jours. Enfin, voilà, vous pouvez le retrouver facilement.
Et donc en gros, pour clarifier la situation, depuis dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, les flics ont commencé à s'occuper donc d'expulser toutes les occupations situées sur le site où devait être construit l'ex-aéroport. Donc ils ont débarqué à 3 ou 4 heures du matin. Normalement, l'autorisation pour débuter les expulsions avait été donnée à 6 heures. Donc ils sont arrivés par surprise en pleine nuit pour commencer à déloger les occupants. 2500 flics environ ont été envoyés, avec des véhicules blindés, enfin un arsenal déployé vraiment impressionnant. Ça dure comme ça du coup depuis dimanche, tous les jours, avec des pelleteuses. Tous les sites occupés ont été détruits, les maisons, tout ce qui avait pu être construit, les potagers. Il y avait aussi des animaux, enfin tout a été complètement... petit à petit, il reste encore des lieux qui sont occupés, mais ils avancent de plus en plus et en détruisant tout sur leur passage. Au niveau des blessés, alors jusqu'ici on avait eu état d'une trentaine de blessés soignés par la medic team, avec deux personnes évacuées à l'hôpital, mais a priori aujourd'hui il y aurait eu des charges beaucoup plus violentes données par les flics, donc on ne sait encore certainement que le nombre a dû augmenter, on ne sait pas où ça en est. Tout ce qu'on sait, c'est que sur les blessés actuels, la plupart des blessures ont été causées par des grenades de désencerclement, des tirs tendus à la grenade lacrymogène. Donc c'est-à-dire que normalement les grenades lacrymogènes, ils les lancent en l'air vers le ciel et elles doivent atterrir en gros en cloche, ce qui est déjà très dangereux, mais ça arrive qu'ils retournent le lanceur pour tirer à hauteur de torse ou de visage sur les personnes en face d'eux. Et puis bien sûr LBD ou flashball classique. Donc pour les personnes qui sont à l'hôpital, on ne sait pas exactement où ça en est. Ce qu'on sait pour les gens qui seraient dans la région nantaise et qui pourraient nous écouter, c'est que actuellement tous les jours à 18h devant la préfecture de Nantes, il y a des rassemblements. Il y a un appel à manifester samedi à 15h à Nantes. Alors j'ai pas le lieu de départ, mais si vous allez jeter un coup d'œil sur le site ZAD Nadir, vous trouverez facilement. Et un appel à converger vers la ZAD dimanche toute la journée. Donc plus pour se mobiliser, voir un peu ce qui se passe et essayer d'amener du monde pour empêcher les flics de faire ce qu'ils veulent. Parce qu'il faut savoir aussi qu'ils ont empêché l'accès à la zone à tous les journalistes. Donc ils sont bloqués à l'entrée, les personnes qui détiennent une carte de presse ou non sont bloquées. Les seuls journalistes qu'on doit entrer doivent entrer avec les flics.
Ouais, dans les camions,
voir que ce qu'ils veulent à l'endroit où ils veulent et sur les opérations qu'ils veulent, ou alors ils récupèrent les images filmées directement ou prises en photo par la police.
Parce que c'est un grand argument effectivement du ministre de l'Intérieur, c'est de dire que nous de toute façon tout est filmé, donc il n'y a pas de risque de bavure ou je ne sais quoi de surviolence entre guillemets, parce que du coup tout est filmé par les gendarmes et ils donnent évidemment que les images qu'ils souhaitent. Donc le problème aussi c'est par rapport à l'électricité, parce qu'apparemment il n'y a plus d'électricité sur le site.
Ouais, ça arrive aujourd'hui aussi.
Du coup voilà, pour recharger les portables et pour pouvoir communiquer avec l'extérieur, ça va devenir de plus en plus compliqué. Voilà, et ce que disait la personne qui était présente là-bas, c'est que vraiment il y a eu un déchaînement de violence totale des gendarmes du coup et de l'État. Voilà, je pense que voilà.
De toute façon, on
le savait un petit peu. L'analyse était, ouais, ils ont lâché le projet pour l'aéroport, mais par contre, ils feraient aucun cadeau derrière, et c'est le cas. Il y a un truc qui fait polémique, donc cette histoire de ferme là.
Oui.
Les sans noms, ça, non ?
Ouais, c'est ça,
c'est ça,
noms,
c'est
ouais.
Ça. Voilà, qui était plutôt un truc, voilà, qui était un projet collectif, certes, et pas un projet individuel comme souhaiterait l'État pour analyser après un par un. Mais c'est quelque chose, voilà, vraiment de que. Qui avait un ancrage sur la ZAD et avec des gens très diversifiés, et là je pense que ça fait écho et ça amène encore plus de monde sur la zone en ce moment.
Ouais, c'est qu'en fait il y avait eu une porte ouverte du gouvernement, alors on sait qu'on peut pas leur faire confiance, mais qui était sur le fait de si les occupants déclaraient leur projet avec un dossier monté, etc. Je sais pas exactement comment ça fonctionnait, voilà. Mais il y avait une possibilité, entre autres pour la ferme des sans noms, de rester. Normalement elle n'aurait pas dû être expulsée ou évacuée, mais en fait ça a été démoli pareil, et pour donner, je pense, aussi un gros coup au moral, quoi, parce que c'est vraiment des sites historiques de la ZAD qui sont là depuis le début de l'occupation en 2008-2009 et qui ont été très importants, ouais.
Et du coup, le but, voilà, c'est un, de faire très peur aux gens qui sont dedans, en blessant, voilà, en n'hésitant pas à tirer à flux tendu, etc., comme tu l'as dit tout à l'heure, pour que les gens partent d'eux-mêmes, en fait, et pour ceux qui restent, bah, du coup, d'y aller de plus en plus fort, et puis d'y aller à l'usure, hein, parce qu'on sait que 2500 gendarmes, quand même, avec tout l'arsenal qu'ils ont, enfin, voilà, évidemment, on peut pas tenir avec des cailloux et des bouteilles, quoi.
Ils contrôlent toute la zone aux alentours, c'est-à-dire que c'est très compliqué, parce qu'ils se déplacent, stratégiquement, j'imagine, en fonction des opérations qu'ils vont mener dans la journée. Alors, sur le site de la ZAD, on nous dit par quel endroit, du coup, on peut entrer ou pas entrer, par quel endroit on peut arriver en voiture ou pas arriver en voiture, par quel champ c'est possible de passer, mais on voit qu'ils se déplacent vraiment et qu'ils mettent la pression sur tous les fronts. Mais de toute façon, même visuellement, on peut voir des photos circuler avec des flics en train de matraquer des gens dans les champs avec des fusils automatiques accrochés dans le dos. L'histoire des véhicules blindés, c'est pas des chars d'assaut qui sont en train de tirer aux missiles sur les manifestants, certes, mais c'est quand même visuellement ultra violent de voir qu'on est en train d'envoyer des véhicules militaires blindés sur les zadistes, il y a quand même tout un truc autour de ça qui est clair. Et effectivement, l'arsenal déployé est pas. Je sais pas si on a déjà vu ça en France.
Je sais pas, ouais, essayer de voir un petit peu, je pense pas. Après, par rapport à la montée de la violence, c'est global, du coup, sur tous les conflits, enfin, sur toutes les luttes sociales du moment, de toute manière, hein, l'impression. On a vu sur les facs, notamment, on aurait pu en parler tout à l'heure, mais du coup, on revient un peu dessus sur les CRS dans les enceintes universitaires. On a vu à Nanterre avec une évacuation plus que très musclée. On a vu à Lille où c'était les CRS qui filtraient l'entrée des étudiants et étudiantes à l'intérieur de la fac.
Oui, ou qui contrôlaient devant les établissements, pendant les partiels, ouais, pour être sûr qu'il n'y ait pas de mobilisation.
Voilà, de mobilisation. Donc, carrément, un climat de terreur qui va être installé de partout sur toutes les luttes. Il n'y a pas eu encore de manif réprimée là, pour la SNCF et sur le reste, mais ça ne va peut-être pas tarder à venir si ça prend et voilà, si ça continue. C'est la seule réponse, en tout cas, pour l'instant, qui est donnée.
Bah, de toute façon, on voit bien, et avec la ZAD, c'est assez flagrant que Macron il a décidé de s'attaquer un peu à tout le monde en même temps.
Ça fait
pour l'instant, ils mettent les moyens nécessaires.
Pas à Dieu, il a dit. C'est des copains. On y reviendra tout à l'heure, du coup, sur un petit article là-dessus. Donc voilà, donc on vous redit, voilà, si vous voulez vraiment avoir beaucoup plus de détails sur ce qui s'est passé aujourd'hui à la ZAD, n'hésitez pas à réécouter le Canu Info tout à l'heure, voilà, avec la personne qui était en direct. Et puis nous, du coup, on va passer à un autre sujet, une autre lutte. Du coup, c'était la SNCF, ce coup-ci, c'est ça ?
Et oui, on va passer un petit point sur la lutte dans le chemin de fer, puisque cette nuit, à minuit 7, très exactement, dans un hémicycle quasiment vide, les députés ont voté la privatisation de la SNCF. Donc ouais, quasiment vide, c'est-à-dire par 74 voix pour contre 20 contre, ils ont voté un amendement qui prévoit qu'à compter du 1er janvier 2020, la Société Nationale à Capitaux Publics SNCF et ses filiales constituent un groupe public unifié. Donc, 74 1, ouais, voix contre 20, on s'amusait tout à l'heure à faire le calcul, ça fait 94 personnes sur 577 députés normalement dans la totalité de l'hémicycle, donc 16%.
Voilà, un grand bravo. Je fais un petit rapprochement, il y a Alternative Libertaire qui a fait un petit visuel sympathique avec du coup une photo de l'hémicycle vide, avec marqué leur démocratie,
oui,
et en dessous du coup une assemblée générale dans une fac
à Montpellier.
Ouais, à Montpellier, avec 2 à 3 000 personnes en disant voilà, et nous voilà ce qu'on fait, nous au réel, voilà, c'est nous, notre démocratie, elle est là, elle est dans la rue, elle est au plus près des gens, elle est pas dans un hémicycle où il y a 100 pèlerins sur 577, quoi. Donc je trouvais plutôt l'image plutôt pas mal.
Et puis c'est pas la première fois, hein.
Oui,
on l'a
ça,
vu,
oui,
pour les lois sécuritaires, pour enfin en permanence, et à chaque fois en plus c'est la même stratégie, c'est de le voter la nuit avec
oui, voilà, ouais. Sachant que même si l'hémicycle était plein, effectivement, peut-être que ça n'aurait pas changé grand-chose, mais au moins, voilà, ça amène un peu plus de. Pour ceux au moins qui défendent ce système-là encore, voilà, de dire, voilà, mais regardez, c'était plein, les gens ont voté, on les a élus, blablabla, et là, c'est pas du tout le cas, quoi, en fait. Donc, voilà, je sais pas s'il y avait autre chose par rapport. Si on avait parlé un peu du taux de grévistes tout à l'heure par rapport à SNCF, parce que du coup, moi, j'avais vu un petit tract circuler de Sudrail, voilà, qui disait que les taux annoncés par la direction de la SNCF, qui peut paraître, alors qu'ils sont forts, hein, parce que c'est entre 30 et 50% là, sur les deux premiers, deux fois deux jours de grève, là, mais du coup, qui peut paraître pour l'opinion publique un peu faible, en disant, bah, en fait, s'il y a que 30 à 40% de grévistes, pourquoi ce truc-là continue, quoi, c'est pas. Pourquoi il continue, en fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la direction prend, pour calculer ces chiffres de grévistes, prend aussi en termes de présence les personnes qui sont en arrêt maladie, les personnes qui sont en congé, en fait les personnes qui sont pas là physiquement au travail, pour justement que ce taux de grévistes baisse un petit peu et pour que l'opinion publique va continuer à être un peu contre ce mouvement-là, même si ça change un petit peu parce qu'il y a de plus en plus, et ça c'est plutôt agréable, de témoignages directs en fait de cheminots et de cheminotes qui racontent un peu leur quotidien, leur vie, leur paye, etc. Et que du coup ça commence à faire un petit peu changer la donne, et voilà. Puis après il suffit de discuter avec elle pour trouver ça. Et moi je voulais juste revenir, je sais plus, tu avais aussi quelque chose.
Ouais.
Vas-y, je t'en prie, après j'enchaînerai.
Sur la SNCF, donc à voir par lequel est-ce qu'on va commencer. Mais je vous avoue que j'ai bien envie de répondre à une question qui nous hante toutes les nuits, qui est de savoir pourquoi la SNCF supprime les trains, même les jours sans grève. Voilà. Alors, il faut savoir que l'entreprise publique a adapté discrètement son plan de transport pour prévenir une accumulation de retard dans la maintenance des rames. Donc, la direction de la SNCF avait annoncé la couleur avant le début du conflit. Donc, la grève, entre guillemets, à épisode. Donc, épisode parce qu'il s'agit de préavis de grève deux jours tous les cinq jours jusqu'à fin juin, qui a été lancée par la CGT, l'UNSA et la CFDT, pèsera sur le trafic même lorsque les cheminots ne sont pas appelés à débrayer. Donc cela se ressent à la prise du travail. Au sortir d'un mouvement de grève, les 15 000 trains qui circulent chaque jour, ainsi que les conducteurs, ne sont plus nécessairement positionnés là où le prévoit le plan de transport mis au point en début d'année. Il faut alors quelques heures pour aplanir ces difficultés. Donc on parle d'une sorte de planning désorganisé. Parce qu'à plus long terme, la rafale de préavis déposés par les syndicats désorganise très sérieusement le planning de maintenance du matériel roulant, avec le risque de réduire, au bout de quelques jours, le nombre de trains en train de rouler. Donc chaque jour, 10% des rames passent par les ateliers de maintenance pour des contrôles de routine ou des préparations plus sérieuses. À cela s'ajoute une charge de travail générée par le conflit lui-même. Donc la SNCF explique cela par en disant que lorsqu'un train ne roule pas pendant au moins 24 heures, il faut s'assurer de son bon fonctionnement. Après une grève, des locomotives peuvent ainsi passer en révision avant d'être déclarées aptes à rouler. Encore un argument comme on les aime. Mais lors de la première séquence d'arrêt de travail, les 3 et 4 avril, aucune opération de révision n'a pu être effectuée, selon une source proche de la direction. D'abord parce qu'une bonne partie des agents chargés de la maintenance étaient en grève, donc 43% le 3 avril, 34% le jour d'après. Conséquence, les opérations de maintenance ne se font pas et ce retard, s'il s'accumule, peut se faire très vite sentir sur le matériel roulant disponible. Avec le risque, faute de train, de voir des circulations annulées les jours sans grève. Pour éviter ce scénario, la SNCF a choisi d'adapter son plan de transport de manière préventive, elle explique un cadre de la SNCF. Durant les trois jours sans grève, les 5, 6 et 7 avril, elle a discrètement supprimé un certain nombre de circulations afin que le planning de maintenance puisse être à jour. Dans le contexte chahuté des grèves, cet écrêtage est passé relativement inaperçu. Il devrait être reconduit autant qu'il le faudra. Voilà, donc ça c'était un peu la grande question qu'il y avait. Et je pense que l'autre point sur la SNCF, on pourrait peut-être le faire après une petite pause musique.
J'avais un petit truc aussi.
Mais après, on peut modifier. Hein.
Il y avait aussi la même chose par rapport. On parlait des journalistes tout à l'heure à la ZAD, alors à un degré beaucoup moindre aussi. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que les journalistes. On prend un exemple. J'ai vu l'exemple de France 2, qui sont quand même des sales gauchistes, hein, comme tout le monde le sait. eux, du coup, c'était l'exemple qu'ils donnaient. En fait, c'est la direction de la SNCF qui donne les accréditations pour pouvoir rentrer dans la gare et pouvoir aller sur les quais pour pouvoir filmer les gens et les interroger. Donc ça veut dire qu'il y a quand même aussi une privation du droit de la presse assez flagrant là-dedans. Ce qui veut dire, voilà, par exemple, voilà, c'est l'exemple de France 2, mais je pense que ça peut être le cas pour d'autres journalistes qui sont encore moins officiels, enfin, en tout cas moins médias de masse, etc. Voilà, dans les grandes gares en fait, de France, ils n'avaient pas le droit de rentrer. Ils étaient suivis par un espèce de toutou de la direction qui est suivi de partout pour les empêcher d'y aller. Et donc ils ne pouvaient pas interroger les personnes. Et la seule diffusion d'information, c'était la SNCF, bah, qui faisait un peu comme les gendarmes à la qui donnait une cassette toute prête avec des interviews d'usagers qui disaient ah oui mais c'est super, du coup les personnes en gilet rouge elles s'occupent bien de nous, on nous aiguille, on donne toutes les infos qu'il nous faut, etc., etc. Et puis au moment du coup ils ont quand même pu rentrer sur un quai qui était bondé de personnes qui cherchaient un train, en fait il n'y avait aucune information qui était donnée. Donc là c'est pareil, les informations elles sont données au compte-gouttes et selon le bon vouloir de la direction. Et je voulais juste revenir moi vite fait sur la parce que du coup on a été beaucoup revenu sur l'argument du statut des cheminots voilà, les semaines précédentes. Il y avait un truc quand même assez important, c'est par rapport à la dette, cette fameuse dette de la SNCF qui pèse du coup sur les réformes. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la SNCF est donc endettée de près de 50 milliards d'euros, et donc cette réforme elle est aussi et pour beaucoup en tout cas, pour essayer de résorber cette dette et en ouvrant donc la porte à la privatisation. Ce qu'avait dit Macron en juillet dernier, c'était que l'État pourrait prendre en charge la dette de la SNCF, ce qu'il dit déjà plus. Hein. Il dit qu'il prendrait une petite partie éventuellement en charge, en échange d'un nouveau pacte social, à savoir le statut des cheminots. Donc il mettait déjà en fait en opposition les 46,6 milliards d'euros de dette et le fameux coût du statut des cheminots. Voilà, comme c'était eux les responsables de la dette. Donc il y a un petit article qui reprend ça, qui est assez intéressant, c'est qu'en fait la dette, elle date depuis un petit moment et elle a été mise sous le tapis il y a 20 ans. Il faut savoir, dans les années 80, il y a une politique du tout TGV, voilà, vers laquelle les investissements sont essentiellement dirigés, qui se traduit vers une diminution continuelle des budgets de maintenance et de renouvellement du reste du réseau, et qui aboutit à un état de délabrement alarmant des parties des voies. Ce qu'il faut savoir, sur les 30 000 km de voies, il y a plus de 9 000 km, et ça c'était il y a presque 10 ans, qui étaient considérés comme vétustes, voire dangereux. Et à certains endroits, les rails sont si dégradés que les trains doivent ralentir. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de maintenance, ça coûte trop cher, et du coup on préfère limiter le nombre de trains ou les faire ralentir, et donc plus de retard, etc. etc. Ce qui s'était passé en 97, pour répondre aux critères de Maastricht, c'était que du coup que la France donc, a choisi de loger sa dette ferroviaire, donc c'est 40 et quelques milliards, dans un nouvel établissement public séparé de la SNCF qui s'appelle le Réseau Ferré de France, RFF, qui a été renommé SNCF Réseau en 2014. Et donc cette dette-là qui plombe actuellement le système ferroviaire, c'est celle de la SNCF Réseau et pas celle de la maintenance et des salariés, etc. Ça a continué sous le gouvernement Sarkozy avec un vaste programme de travaux, mais sans y allouer les finances financières. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un projet, là il y a un exemple, il fallait investir 3,2 milliards. Bah, il y avait eu 2,2 milliards de subventions. Pour trouver 1 milliard supplémentaire, bah, fallait emprunter. Donc voilà, donc ça fait de l'argent à rembourser. En 2012, c'était pareil, 4 milliards d'euros, subvention 1 milliard. En 2015, rebelote, 5 milliards à débourser, 1 milliard de l'État. Et donc à chaque fois, c'est des prêts. Et à chaque fois, ces prêts, bah, du coup, il faut les rembourser. Il y a un taux d'intérêt. Et en fait, du coup, la charge de la dette, elle pèse et elle ne peut plus, du coup, être utilisée pour autre chose. C'est-à-dire que si la SNCF emprunte 100 euros pour le réseau, pour nous, pour les usagers, pour le service public, eh bien, il ne peut utiliser que 41. Parce qu'il y a 59 restants qui sont ponctionnés par le système financier, par les intérêts et par le remboursement de la dette. Et donc voilà, c'est un peu l'arnaque qu'il y a en ce moment par rapport à cette dette. Voilà, après je vous ferai pas la résultatique parce qu'on est déjà venu sur les salaires des cheminots et des cheminotes, hein, voilà, qui est presque ridicule. Par contre, on refera un petit point, je pense, un autre jour sur les propositions syndicales, notamment de la CGT et de Sudrail, pour justement un service public durable et pour les usagers et usagères et pas contre ces personnes-là. Donc voilà.
Et pour continuer sur le point SNCF, il y a eu un beau message de solidarité qui nous est arrivé depuis la Grande-Bretagne, où des travailleurs et travailleuses se sont organisés pour stopper une tentative de cassage de grève. En effet, alors en France, les cheminots et cheminotes ont commencé à faire grève mardi dernier pour la première grève d'une série de 36 journées. Et immédiatement, la direction d'Eurostar a tenté de transférer des techniciens et techniciennes de maintenance du technicentre de Leyton dans l'Est londonien vers le technicentre du Landy en région parisienne. Le personnel britannique est formé de deux équipes, contingence et urgence hiver, qui peuvent être déployées lorsque l'opérateur fait face à des problèmes inhabituels, par exemple quand un train est endommagé par du givre. Les travailleurs et travailleuses de ces équipes se sont vus offrir une prime exceptionnelle pour aller en France et leur ordre de mission indiquait clairement qu'ils allaient remplacer des travailleurs et travailleuses grévistes.
C'est beau. C'est international, hein.
On va aller chercher en Angleterre. Mais seulement la RMT, syndicat des cheminots et cheminotes britanniques, s'est immédiatement organisée pour informer les travailleurs et travailleuses que c'était une mission de cassage de grève. La CGT, de son côté, a furieusement protesté auprès du Conseil d'entreprise européen et entamé une procédure légale. Parce qu'en effet, en France, il est illégal de déployer des travailleurs et travailleuses pour couvrir des grévistes, en principe. Le syndicat RMT a issu un communiqué qui a été distribué au technicentre de Leyton, donc à côté de Londres. Les syndicalistes ont également distribué le calendrier de la grève des cheminots et cheminotes en France afin que les travailleurs et travailleuses britanniques soient au courant des missions qui pourraient constituer un cassage de grève. La RMT, qui avait appelé ses membres à voter pour le Brexit, compte également distribuer des tracts de la CGT à Leyton et s'est engagée à rejoindre les piquets français avec des drapeaux RMT afin de faire barrage à d'éventuels briseurs ou briseuses de grève.
Pas mal du tout, cette solidarité entre travailleurs et travailleuses de différents pays. Donc impec. Au moins, ils ont réussi à empêcher ça et que la grève soit cassée du côté du nord de la France.
Tout à fait. Est-ce qu'on continue encore? Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, on entame
sur pause musicale.
La petite pause musicale. On fait un petit coucou à notre copain Fabricio qui nous écoute depuis Buenos Aires. Et on met une chanson qui s'appelle Compañeros de Piquete. Bonsoir, c'est reparti pour Idées Noires. On s'excuse d'avance si vous avez entendu quelques bruits pendant la première partie de la chanson.
Qu'on bossait pendant les pauses.
Voilà.
Mais
et...
Bon, voilà.
Et on va enchaîner avec une première partie de Lutte Sociale.
Allez, bonsoir. Donc, bah, il n'y a pas que la SNCF, évidemment, qui est en effervescence. Il y a aussi d'autres sociétés, comme la société Solvay, notamment. On est dans la chimie, cette fois. Mm-hmm. C'est pas tout à fait une lutte encore, mais ça va devenir, je pense, enfin, j'espère. C'est ces grosses entreprises qui font leur tambouille selon leur bon plaisir, tel le monarque sur son trône. Alors, Solvay, c'est quand même 24 000 salariés et qui a, donc, la direction a décidé d'en prélever 600 sur la planète pour les dispatcher à sa guise. C'est le variable d'ajustement dans toute sa splendeur. Ainsi, 500 salariés parisiens et de la région parisienne iront voir si Bruxelles est bien en Belgique et si Saint-Fond est bien à côté de Lyon, histoire de changer d'air. Je ne vous parle pas de l'air, de la qualité de l'air de Saint-Fond. Alors, ce n'est pas fini puisqu'il y aura 600 autres emplois qui seront supprimés, dont 160 dans l'Hexagone. et d'autres aussi, d'autres travailleurs qui sont exilés sur Tavaux, par exemple, dans le Jura. Alors on brasse à Solvay, on malaxe la masse salariale, on éparpille le variable, on ajuste donc au plus près, c'est le plan de simplification de son organisation et renforcement de l'innovation sur les matériaux de haute performance. Je les cite, hein, et bien sûr, à ce moment-là. Hein. Il y en a qui donc ont déjà la salive dégoulinante à la commissure des lèvres, ce sont les actionnaires, puisque 2,2 milliards de profits hein, pour 2017, en hausse à 7,5% sur 2016. Alors juteuse, hein, la chimie chez Solvay, bah, merci aux variables hein, d'ajustement, voilà, qui ne sont pas des buses évidemment, parce que j'espère qu'ils vont se la buse variable,
bah oui,
hein, évidemment.
Mais c'est 600 salariés en moins, ça fait une dividende en plus pour les actionnaires.
Et oui, oui, bien sûr, oui, voilà. Donc pour Solvay. Maintenant sur Paris-Orly aussi, c'est l'aéroport international et ben c'est les bagagistes qui sont en grève. Autrement dit, ils et elles ont posé leurs valises. C'est chez Honnête Régnier, qui est une société sous-traitante de Air France. Une grève, une lutte hein, qui est un petit peu passée sous silence et qui a démarré quand même le 23 mars avec la CGT, l'UNSA, la CFDT, la CFTC, FO et Sud et le syndicat SMA. Donc 7 syndicats en tout quand même dans cette lutte, une centaine de salariés qui grèvent et bloquent et dénoncent les conditions de travail, des discriminations salariales, et la direction a proposé 50 euros mensuels contre une baisse d'effectifs. C'est du donnant-donnant. 20 personnes donc qui sont sur le grill de ce marchandage abominable, mais aussi 2000 bagages qui sont retenus quand même donc à Paris-Orly. La grève continue, ou du moins continuait, au 5 avril. Parallèlement donc à la grève, en fait, ce mouvement de colère, hein, qui est parallèle à la grève des personnels navigants de Air France, qui revendiquent une hausse de 6% des salaires, vu la bonne réalisation de la compagnie aérienne, grâce donc à leur travail et les bénéfices évidemment qui ont été réalisés. Ce conflit donc de Air France a été lancé par 11 syndicats que je ne citerai pas là.
Non, il y a un peu tout et n'importe quoi.
Oui, oui, on sait. Hein,
c'est assez hallucinant le nombre de syndicats Air France.
Voilà, donc 11 syndicats des métiers de l'air, bien sûr. Ouais. La direction propose ben, elle, 0,6% au 1er avril et 0,4% en octobre.
Hein,
des pauvres, hein, c'est voilà, des manières de pauvres hein, en fait. Donc et également des augmentations individuelles à 1,4% pour certaines catégories de métiers au sol. Maintenant, passons à autre chose. Les Mureaux, c'est dans le département 78, hein, avec une grève donc, qui a démarré le 3 avril. Ce sont les salariés du collecteur de déchets Cépur. C'est pas un jeu de mots de ma part, hein, c'est le nom de la société, hein, Cépur, voilà, qui était en grève illimitée. Oui, c'est bien trouvé, oui. Qui était en grève donc illimitée pour le paiement mensuel des heures supplémentaires, puisque celles-ci étaient versées jusqu'à présent sous forme d'un pécule en fin d'année. Voilà. Alors, en deux aussi, dans les revendications, bah, ce sont les conditions de travail bien sûr à améliorer, et là c'est le moins qu'on puisse dire. Dans la même branche, c'est à Ivry donc à Paris 13, les égoutiers associés aux collecteurs agents de propreté, donc qui ramassent les déchets, nos déchets, et qui occupent depuis début avril le site SICTOM, c'est le syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères. Alors salariés du public et du privé ensemble pour la revendication, bah, c'est un départ anticipé à la retraite de 5 ans à taux plein et de 10 ans pour les métiers exposés à l'insalubrité et à la pénibilité. Donc une réduction également qui est revendiquée du temps de travail de 20% et la création d'un statut unique public. Dans le département de l'Indre aussi, avec des débrayages pour les salariés de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, bien entendu. Donc, il y a eu une fois une première grève en mars, puis une fois aussi en avril. 55 minutes à chaque fois, hein, les conditions de travail suite à une perte de 30 postes. Et ça continue, l'hémorragie, avec comme pansement ben, des heures supplémentaires pour ceux qui restent. C'est l'outil informatique aussi qui est en cours. qui est cause du tracas et du mal-être et qui est complètement défaillant. Idem aussi à Bordeaux, c'est tous les jeudis par contre à Bordeaux pour cette grève, et à Bourges selon la CGT Organismes Sociaux. Et puis aussi, même motif, même punition, hein, c'est une suite, cette fois, pour la direction de la CARSAT, hein, c'est la caisse de retraite. Ouais. Les personnels ont mis leur menace à exécution le 3 avril en Normandie. Là aussi, 55 minutes de grève par jour, de 10h à 10h55, pour être précis, pour avoir des embauches immédiates. Alors le but, c'est aussi, évidemment, d'alléger la corvée des téléconseillers. Il et elle sont 6 pour des appels à gogo multiples. Donc la réponse du staff, ben, c'est de externaliser les appels à une société privée. Donc pour les grévistes, ben, ça sera du personnel mâle ou non formé à la spécialité de la CAF, hein, on va dire. C'est la crainte, donc, bien sûr, surtout pour quand on est retraité et qu'on ne sait pas trop bien se débrouiller, ça arrive. Donc il faut qu'ils soient bien sûr renseignés précisément. D'ailleurs, les salariés en poste souhaitent une formation plus adaptée au moment aussi.
Voilà. Plutôt que d'embaucher, on sous-traite.
Voilà. Grosso modo. C'est
moins cher.
On va sur le privé, quoi, tout bonnement, hein, tout doucement, mais tout bonnement. Alors, autre situation délicate aussi, c'est celle des ATSEM, sont les agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles, qui sont en grève depuis plusieurs semaines, c'était au 4 avril, dans plusieurs villes, et ça concerne pour eux et elles, donc les concours pour le recrutement, tout poste, emploi et les diverses dispositions statutaires. Les ATSEM exigent la reconnaissance de leur mission éducative auprès des enfants. La reconnaissance aussi qui n'apparaît aucunement dans les décrets du 3 mars 2018. De même, aucune revalorisation des grilles salariales apparaît. Par contre, le ménage n'est pas oublié. Nettoyage des locaux comme mission centrale, s'il vous plaît, du métier. Et plein d'autres gâteries aussi du même acabit. La revendication, c'est être reconnu comme ATSEM. Et je vous enverrai plutôt sur le site de la CGT où il y a quand même pas mal d'informations que je ne pouvais pas, évidemment, vous donner ici dans une brève, quoi, parce que sinon ça aurait été un petit peu long.
C'est hallucinant vu qu'on a le rôle essentiel des ATSEM dans les classes, voilà, aux côtés des professeurs des écoles. C'est assez hallucinant comment elles sont traitées. Maestro, on avait quoi de prévu après?
Ah, heureusement que je suis là. Après,
il s'endormait sur son micro là-bas.
Et aujourd'hui, je suis là. Non.
Et je suis là.
Une bonne ambiance.
Trêve de plaisanterie, hein, si on pouvait revenir un peu sérieux, camarades, parce que c'est notre tour.
Je crois
c'est
qu'après, on parle de Dieu, de notre meilleur ami, Dieu, Macron. Macron est un dieu.
Voilà. Hein. Il était
donc,
Jupiter.
On a tous et toutes été bien surprise par son magnifique discours à la conférence des évêques de France. Où très clairement il a déclaré la guerre aux homosexuels, aux lesbiennes et aux trans, quoi, donc génial. Donc le discours qui a été tenu par Macron devant donc la conférence des évêques de France, très clairement c'est pas une tentative maladroite d'amadouer la hiérarchie catholique. En fait, il s'agit vraiment d'un acte de violence inouïe envers les personnes LGBTQI+. Donc, candidat, Emmanuel Macron estimait que la manif pour tous avait été humiliée par l'ouverture du mariage et l'égalité des droits. Ça commence bien. Président, il recycle l'homophobie, la valide, la banalise en s'entourant d'un soutien de la manif pour tous, qu'il n'abandonnera même pas quand celui-ci aura avoué avoir usé de positions de force pour obtenir des faveurs sexuelles et quand plusieurs témoignages évoqueront des agressions sexuelles. Il valide en plus de ça la présence d'homophobes et de transphobes, lesbophobes à l'Assemblée nationale ou dans son gouvernement, donc par exemple Édouard Philippe ou Gérard Collomb. Président encore, il rechigne à condamner des séries d'agressions homophobes. Il ne fait rien pour les homos de Tchétchénie, cautionne une énième loi raciste qui, loin des effets de manche de la majorité, va compliquer les demandes d'asile des personnes LGBT. Il fait baisser les budgets de la lutte contre le sexisme et l'homophobie, s'affiche aux côtés du harceleur homophobe Cyril Hanouna. Il fait de l'égalité des droits face à la PMA un enjeu entre guillemets éthique et de longs débats où la parole de celles et ceux qui veulent la disparition de l'espace public par tous les moyens et cautionné. Donc ces débats entraîneraient une hausse des agressions, celle-là même qu'il rechigne à condamner. A-t-il compris qu'en cautionnant les discours refusant aux lesbiennes et les mêmes droits, il encourage les actes de violence ? Il semblerait que non. Donc ce soir, il ne se fait plus de mettre en équivalence lesbiennes, les gays, les bi ou les trans avec ceux et celles qui veulent leur disparition. Le président de la République envoie la conférence des évêques de France sur les messages suivants. Sur la bioéthique, on nous reproche.
Très bien, Emmanuel Macron.
Sur la bioéthique, on nous reproche de connaître par avance les résultats de débats organisés. Or, nous sommes face à des débats intimes et profonds. Voilà, donc on voit bien que.
Je dirais qu'elle le connaît.
On sait, ouais, je le connais personnellement. On a longtemps débattu. Or, pour s'en tenir à la PMA, l'égalité n'a rien d'intime ni de profond. L'égalité est politique et simple, en fait. Donc, très clairement, encore une fois, on voit bien qu'il ne sait pas vraiment de quoi il parle. Alors je cite de nouveau, j'entends la voix de l'Église. Ça commence bien. J'entends la place essentielle donnée à la famille dans nos sociétés. Certains principes énoncés par l'Église se confrontent à une réalité complexe et contradictoire. Waouh, ça par contre c'est intime et profond. Hein. Ouais. Il réduit donc les familles homoparentales, mais aussi le contrôle que les femmes peuvent avoir de leur corps avec la contraception ou l'IVG, à de la complexité ou de la contradiction envers la doctrine de l'Église, comme si celle-ci devait prévaloir dans une république laïque. L'égalité devient donc complexe et contradictoire, façon polie d'expliquer que ces PD, ces gouines ou ces traves font vraiment chier. Il enchaîne, donc je cite toujours, « Chaque jour, l'Église accompagne des familles monoparentales, homosexuelles ou ayant recours à l'avortement en essayant de concilier ses principes et le réel. » Bon, effacer les thérapies de conversion cautionnées par la hiérarchie catholique, le combat incessant contre l'IVG, la contraception, la mise au ban des familles homoparentales, la croisade contre la capote et les contaminations conséquentes, le combat contre l'éducation sexuelle et les stéréotypes de genre à l'école. Pour le président, l'Église n'est qu'amour.
Wouhou !
Ouais, et il n'est même pas capable d'utiliser les bons termes. Mais pourquoi s'embêter à se former pour nous, qui valons si peu à ses yeux ? Ce discours se tient dans un contexte de disparition des libertés, où la séparation des pouvoirs n'existe plus et les députés font, sans sourciller, ce que les ministres leur disent, où tous les contre-pouvoirs sont neutralisés, où on empêche la presse de filmer l'expulsion de la ZAD et où on leur sert des images officielles, où on réprime toute contestation, où on détruit les droits sociaux, l'accès aux études, ce qui restait d'égalité scolaire, où le président et sa ministre humilient en public un personnel hospitalier au bord du gouffre, où le racisme d'État le plus crasse détruit de plus en plus de vies. D'ailleurs, quand il s'agit de migrants-migrantes, Macron ne se fait plus complaisant avec le discours du pape et tente de l'instrumentaliser au service de sa prochaine loi raciste. Sa lâcheté face à la hiérarchie catholique s'accommode très bien de l'homophobie, mais ne fait pas ébranler le racisme de sa politique. Donc ce que Macron fait avec ses messages aux évêques, c'est nier la réalité de nos vies, des oppressions que nous subissons et pour lesquelles la hiérarchie catholique porte une lourde responsabilité. Ce qu'il nous dit à nous, PD, Gwyn, trans, c'est que nous ne valons même pas une messe. C'est que nos souffrances ne comptent pour rien et qu'il achètera la paix de la hiérarchie catholique en nous marchant dessus. Voilà.
Donc, ouais, c'est un petit billet de blog qui était fort sympathique, en tout cas très bien écrit, qu'on a trouvé, trouvé sur le net. C'est assez intéressant parce que du coup, là, on est déjà au mois d'avril, au mois de juin, il va y avoir la Pride, enfin, juin et juillet étalé sur plusieurs villes de France. Et que pour cette année, sur Lyon, en tout cas, le mot d'ordre, c'est par rapport justement à la PMA pour tout le monde. Ouais, donc, ça va être très important d'être là pour soutenir de nouveau cette marche. Voilà, ouais, cette marche cette année de nouveau. Parce que là, du coup, il y a quand même un boulevard qui a été ouvert, du coup, à tous les cathos intégristes de France, voilà, avec un soutien sans faille du coup du président, et donc ça va encore ouvrir effectivement des brèches, et surtout ça va engendrer un nombre de violences pas possibles, qu'elles soient verbales ou physiques. Donc voilà.
Est-ce qu'on continue directement ou est-ce qu'on envoie une petite courte pause musicale maintenant?
Je fais vite fait l'Irlande du coup, petit truc sur l'Irlande, et après on fait petite pause musicale
comme tu veux, comme tu veux.
Après la deuxième page de lutte, ce sera assez rapide. Hein,
j'avais un groupe qui allait bien dans ce de la discussion.
C'est pas grave, c'est un rapport un petit peu aussi, enfin ça peut avoir un rapport aussi, parce que du coup c'est par rapport aux droits, notamment des femmes en Irlande, et c'est surtout voilà aussi par rapport aux violences faites aux femmes. Il y a eu, donc ça remonte déjà à deux semaines, une large mobilisation en Irlande contre les violences faites aux femmes. Il y a des milliers de personnes qui sont rassemblées dans toute l'île suite à un acquittement lors d'un procès de quatre hommes, dont deux rugbyman nord-irlandais accusés de viol et deux de leurs connaissances qui auraient couvert ce viol. Donc le procès et le verdict ont été très médiatisés. Alors du coup, la personne qui a écrit l'article se demandait si la présence dans le box des accusés, donc de Stuart Holding et de Paddy Jackson, qui sont deux rugbyman, qui a largement capté l'attention et généré beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux pendant et à l'issue du procès. Donc beaucoup de monde ont déploré le verdict et suspecté une certaine clémence liée au statut de star des deux sportifs. Ce ne serait pas la première fois que ça arrive. Cependant, bien plus nombreux et nombreux sont ceux et celles qui ont voulu descendre dans la rue pour dénoncer les violences de toutes sortes qui sont faites aux femmes. Voilà, et qui considèrent que ce procès en était une nouvelle parce que, par rapport à la culture du viol et la misogynie, parce qu'il s'est déroulé en public, que le nom de la plaignante a été divulgué et a circulé en dépit de son droit évident au respect de la vie privée, et parce que lors du procès a été révélée une conversation très crue entre les accusés sur la messagerie WhatsApp le soir même du viol présumé, conversation dans laquelle ils évoquent leurs exploits sexuels entre guillemets bien évidemment, et emploient des qualificatifs particulièrement dégradants pour décrire les femmes dont leurs victimes. Voilà, donc il y a un gros mouvement notamment sur les réseaux sociaux qui entend surtout sensibiliser à la parole des victimes de viol. Donc il y a un hashtag qui est sorti, c'est Believe Her, littéralement je la crois, qui s'est répandu sur Twitter comme une traînée de poudre et qui est devenu un slogan pour les manifestantes et manifestants. Il faut préciser que juste après le verdict, des associations d'aide aux femmes victimes de violences se sont inquiétées que ce procès en dissuade certaines de porter plainte, évidemment, par peur de ne pas être entendues. Les réseaux sociaux ont servi donc de caisse de résonance à toutes sortes d'opinions durant les 9 semaines de procès. Et la juge de Belfast, Patricia Smith, avait d'ailleurs imploré le jury de ne surtout pas consulter Internet avant de délibérer. Et l'avocat de Paddy Jackson, un des rugbyman, a lourdement critiqué l'intrusion des médias sociaux, assez défavorable à son client, tu m'étonnes. Il a même affirmé que cela avait fait perdre plusieurs jours au tribunal. Et donc, coup de théâtre, donc la veille du verdict un petit peu, l'avocat a annoncé des poursuites judiciaires contre un sénateur irlandais pour un tweet supposé diffamatoire qui relayait donc le hashtag Believe Her. Depuis, du coup, l'avocat du rugbyman a dit qu'il pourrait lancer d'autres procédures contre des utilisateurs et utilisatrices des réseaux sociaux. Heureusement, ça s'est un peu retourné, il n'en fallait pas plus pour déclencher une deuxième vague d'indignation et un nouveau hashtag, Sue Me Paddy, autrement dit, poursuis-moi aussi Paddy, devenu un autre cri de ralliement et de solidarité dans les manifestations pour dénoncer ce que certaines voient comme une volonté de faire taire les soutiens de la jeune femme. Ce qu'il faut savoir en Irlande, c'est qu'il y a un référendum fin mai sur la libéralisation de l'avortement. Voilà, et donc dans les manifestations, il était aussi beaucoup de questions de ça. Et on attendra avec impatience le résultat de ce référendum, parce que l'Irlande, ça reste un des pays européens les plus restrictifs au niveau de l'avortement. Donc voilà.
Bon, et bien on va enchaîner avec le même groupe que précédemment, mais que j'avais pas présenté, qui s'appelle Sudor Marica, qui est un groupe transpédéguine de Buenos Aires en Argentine. Et la prochaine chanson s'appelle Vivante et Furiose. Vivas y Furiosas.
Et n'oubliez pas de le curseur.
Oui, cette fois-ci je vais essayer de faire attention. Ah, ça ne veut pas marcher. Si, c'est parti, pardon. Sudor Marica.
Toda esta miseria no puede durar. Si late el deseo de vivir en paz, lleva loca torta, sucia, desbocada, que tiemble la tierra de pibas con ganas. Si acabar bien pronto con estas violencias, vamos a acordar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Todas las pibas con las palmas arriba. Cucucucumbia marica. ¡Ay, qué rica! A tantos y payos, rey de la pantalla, decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que en menos con capa y espada, que armando trincheras con esta maná. Inunda las revistas, los diarios del odio, opinión del montón. Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda. Ni a palo bancamos toda esa basura. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Furiosas contra el patriarcado, vivas y furiosas contra el patriarcado.
Et c'est reparti sur Radio Canu avec Idées Noires. On va réenchaîner pour une seconde page de lutte sociale.
20h52,
ça n'a jamais assez.
Allez, avec Limoges, donc c'était le 5 avril, avec une remobilisation au CHU donc de Limoges, concerne donc tous les personnels, enfin les personnels de tous les services, les usagers, usagères, des retraités aussi, qui se mobilisent, beaucoup, avec un rassemblement dans le hall pour un refus catégorique, la suppression de 158 postes de travail, hein, et la disparition de 101 lits, une diminution des RTT, voire même les gommer totalement, la suppression aussi du forfait annuel de 28 jours de congé et de la suppression du forfait astreinte. Alors de son côté, la direction forme son équipe défensive bien sûr, avec les cadres pour la stratégie donc sa stratégie, une réunion qui a été donc perturbée par plusieurs centaines de personnes et l'intersyndicale qui a reçu aussi le renfort de et le soutien de 6000 usagers et usagères, mais par pétition sur un Internet pour casser la gueule donc au projet Stratégie 2020. Je oui, cite encore la direction. Donc. Alors le rouleau compresseur, on le sait, hein, maintenant on a compris, je pense, il est en route, il écrase, il écrabouille les acquis sociaux et qui ont été même passés précédemment à l'étuve, à l'amaigrissement, au dégraissage et à la conduite donc, de ce laminage, là où la réforme en marche, eh bien tout y passera ainsi, et comme exemple, je vous donnerai celui des agents de piste et bagagistes qui perdront, selon la CGT, 400 euros mensuels par le changement de convention collective. La CGT Port et Doc est sur le sujet, sujet qui touche aussi l'industrie, la manutention, le nettoyage sur les aéroports. Il y a eu grève en décembre 2017 et en janvier 2018 contre la nouvelle convention collective. À Rouen, avec une grève dans les transports en commun, TCAR, hein, c'est les transports en commun de la ville de Rouen.
De l'agglomération de Rouen, moi je dirais.
En effet, Exactement. C'est cela. Donc les métros et bus depuis le 5 avril, 55 minutes aussi par jour, selon donc la CGT qui conduit cette grève, durée qui ira jusqu'au 28 avril, afin de moins pénaliser l'usager et l'usagère et moins de pertes pour le ou la gréviste, et aussi attirer un petit peu plus dans cette grève les plus timides, qui devraient donc rejoindre le mouvement. Alors en jeu, ce sont les salaire, avec la proposition de la direction qui est toujours aussi minable de 0,8% alors que l'inflation est à 1,2%, les conditions de travail aussi et la baisse de l'effectif, du laisser-aller même dans l'aménagement des fins de carrière des futurs retraités à 62 ou voire 65 ans, parce que là est en jeu quand même l'aptitude donc à la conduite, hein, c'est l'aptitude qui est en question pour cette conduite des cars et des bus, quoi, voilà. On arrive à un âge où c'est qu'on n'a pas eu forcément les mêmes réflexes. Autre bus encore en colère, c'est à La Rochelle. Enfin, quand je dis les bus, c'est évidemment les conducteurs des bus Yellow. Enfin, voilà. Donc, perturbation sur le réseau RTCR, là aussi, c'est un peu le réseau des transports en commun de La Rochelle. Hein, voilà. Donc les salaires sont en question, notamment les heures de nuit avec la CFDT et la CGT qui sont au volant donc, de cette lutte. C'était ce 6 avril. À Granges-Narbose, maintenant dans le Doubs, c'est l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique. En plus court, ça fait ITEP. Alors on est là dans le médico-social, bien sûr, avec des débrayages de 4 heures pour le départ de la direction. Directrice adjointe pour propos insultants, harcèlement moral et qui a entraîné aussi pas mal d'accidents du travail. Et c'est une situation donc qui dégénère depuis quand même 2013. Alors c'est bien sûr c'est la goutte qui a fait déborder le vase hein, ces derniers temps. Alors il y a une mesure disciplinaire qui a été prononcée, prise à l'encontre donc de cette directrice adjointe par la direction de l'association départementale de qui gère cet établissement. Alors ensuite à Taverny, donc c'est 95, donc ce sera la dernière lutte pour ce soir, avec une imprimerie, l'imprimerie Sego, dont l'administratrice est une très chère amie de monsieur François Fillon. Son état,
ouais, je tenais à bonne relation
quand même, ouais. Voilà, donc son établissement est occupé nuit et jour par les salariés qui vont donc se retrouver à battre le pavé bientôt. Alors ça tombe bien puisque avec leur syndicat, entre autres la CNT, ils ont arpenté les rues de la ville le 7 avril. 67 personnes pour le moment chez Sego. En 2016, il y avait eu un rachat qui avait supprimé 58 emplois sur 142. 58 personnes donc qui avaient été mises dehors. En décembre 2017, il y a deux machines très, très pointues hein, de techniques qui avaient pris feu, comme par hasard. L'entreprise est en liquidation judiciaire, puisqu'elle ne pouvait plus assurer du tout la production. Alors, il y a une enquête en cours. Hein, quant aux dirigeants, eh ben, pas d'écho. Because, c'est que bah, c'était les vacances et ils ont participé aussi à des rallyes. Il ne fallait pas les déranger. Donc, et pour ajouter au malheur donc, de cette entreprise et de ses employés, de ses salariés, bah, le groupe Le Monde a une ardoise de 300 000 euros. Les indemnisations pour les futurs chômeurs et chômeuses, bah, ça sera de 2 000 à 4 000 euros par personne. Alors, outre aussi Le Monde, eh bien, il y a Sego imprime quand même pour des grands titre, hein, comme le Nouvel Observateur et France Dimanche. Alors, il y a une revendication pour les indemnités, pour avoir des indemnités décentes, une formation aussi à la hauteur des années passées, parce que la moyenne d'âge dans cet établissement est de 49 ans. Et il faut que je cite aussi quand même la CGT, hein, qui était là, et FO, et aussi la CFDT quand même. Donc, ça fait une intersyndicale quand même, voilà, c'est ça.
Voilà, sur ce sujet. Eh ben merci pour ces luttes. Avant de finir l'émission, on va rappeler un petit peu les rendez-vous de cette fin de semaine. Donc ça démarre demain à midi devant la métropole rue du Lac avec un rassemblement en solidarité avec les mineurs étrangers isolés et contre la loi Colomb, asile, immigration. Donc demain midi devant la métropole rue du Lac, c'est vers la Part-Dieu. Le lendemain, le vendredi à 11h, une manif de cheminots et de cheminotes à 11h au départ de la gare de la Part-Dieu, à soutenir et à aller là-bas, voilà, pour faire grossir un peu cette manifestation. Le soir même de ce vendredi 13 avril à 19h au local de la CNT, un cafeton un peu spécial, voilà, en hommage à Bibi, du coup décédé il y a quelques semaines maintenant, quelques jours, ouais, enfin voilà, au début du mois, enfin au mois de mars. Donc voilà, un spécial cafeton. Normalement c'est jeudi, mais là ce sera le vendredi parce que du coup le 13 avril c'est la date de son anniversaire. Le 14 avril, le samedi, une expo sur Lyon, la 30 ans de lutte, transport gratuit pour les transports gratuits, et un appel du coup aussi à rejoindre la ZAD, du coup voilà, pour aller lutter contre ces 2500 gendarmes et voilà, la destruction quasi totale de tout ce qui s'était construit ces dernières années là-bas.
C'est ça, bah ouais. Du moins à rejoindre au moins Nantes pour la manifestation samedi, et oui, éventuellement la ZAD dimanche, voilà. Avant, pour celles et ceux qui voudraient.
Et voilà, et c'est, quelle que soit la ville où vous êtes, il y a sûrement une fac voilà, qui est occupée, voilà, n'hésitez pas aussi à aller la soutenir. Il y avait notamment un appel qui circulait aujourd'hui pour la Tolbiac à Paris, puisque du coup la présidence qui avait déjà utilisé les CRS hier, voilà, avait un peu mis du coup établissement sous tutelle du préfet. Donc du coup en gros voilà, ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient avec les flics, voilà, ils les envoyaient là-bas, ils vidaient tout le monde. Donc voilà, il y a un appel à solidarité là-bas, mais c'est le cas dans toutes les facs, n'hésitez pas à passer, voilà, si vous le souhaitez. De toute façon, il y a des activités, il y a tout ce qu'il faut pour s'occuper. Donc voilà. Nous, on se donne rendez-vous autrement physiquement du coup à la PERM. La permanence de la librairie.
Samedi,
voilà, de 15h à 19h, au 8 rue Diderot. Voilà, on vous y attend pour venir discuter. Okay. Vous pouvez venir regarder un petit peu nos bouquins, etc., etc. Et entre-temps, nous, on se retrouve sur cette radio-là. Fatigué, il est fatigué, le technicien.
Mercredi
là-bas.
Prochain, donc, mercredi de prochain, 20h à 21h, comme d'habitude. Ah, je ne suis pas fatigué du tout. Et je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous.
Bonne soirée.
Allez, salut.
Salut. Ciao.